Bien, donc je passe la parole à Daniel Pardon.
Oui, bonjour, c'est vraiment triste que Luc Foyneau soit parti parce que vous allez voir que mon intervention est absolument antithétique avec la sienne. Un débat assez intéressant, je crois. Donc je tiens à remercier les organisateurs, organisatrices de la MIRP et ainsi que le CESPRA pour cette invitation et je tiens particulièrement aussi à remercier Sophie Marcotte-Chénard qui a servi d'intermédiaire pour finalement m'inviter à cette journée. Depuis son origine, la philosophie politique est traversée par une tentation à laquelle il lui fut toujours difficile de résister. J'appelle cette tentation la tentation syracuséenne, en référence à la ville antique de Syracuse, où Platon a cru un temps qu'il lui serait possible, sinon d'aider à instaurer un régime juste selon sa conception, du moins d'influencer un conseiller du prince Dion, et par lui gagner peut-être à la cause de la philosophie de la justice le prince même, Denis de Syracuse. Dans sa fameuse lettre 7, Platon relate par le menu ses efforts. En une rare confession, il nous raconte au tout début de cette lettre dans quelle mesure les espoirs politiques déçus de sa jeunesse l'ont conduit à concevoir que seule la philosophie pouvait servir de véritable guide à l'action politique qui conduirait à la fondation de la cité juste. Je cite un texte un petit peu long de Platon ici. À la fin, je compris que, en ce qui concerne toutes les cités qui existent à l'heure actuelle, absolument toutes ont un mauvais régime politique, car ce qui en elles se rapporte aux lois se trouve dans un état pratiquement incurable, faute d'avoir été l'objet de soins extraordinaires aidés par la chance. Et je fus nécessairement amené à dire, en un éloge à la droite philosophique, que c'est grâce à elle qu'on peut reconnaître tout ce qui est juste aussi bien dans les affaires de la cité que dans celles des particuliers, que donc le genre humain ne mettra fin à ses maux avant que la race de ceux qui, dans la rectitude de la vérité, n'aient accédé à l'autorité politique ou que ceux qui sont au pouvoir s'adonnent véritablement à la philosophie en vertu de quelques dispensations divines. Platon inaugurait par là une longue tradition philosophique politique et l'on pourrait retrouver les traces de cette tradition jusque dans la philosophie politique contemporaine. Les philosophes, soit directement ou encore indirectement à titre de conseiller du prince, pourraient contribuer à instaurer un régime politique juste. Bien sûr, au fil des âges, la notion de ce que les philosophes ont pu tenir pour le régime juste a changé, mais l'idée est demeurée sensiblement la même. Si les princes et les politiques ouvraient leurs oreilles à l'enseignement des philosophes, alors il serait possible de faire advenir des régimes répondant davantage aux principes de justice que la raison humaine peut établir et justifier. Seule l'alliance des philosophes et du pouvoir garantirait l'avènement du meilleur régime. Soulignons encore une fois, pour être bien clair sur le sens à accorder à la tentation syracuséenne, que cette idée platonicienne d'une alliance entre pouvoir et philosophie peut être reprise sans que l'on partage nécessairement la conception platonicienne du bon régime. Pour rendre mon propos plus concret, je soutiendrai que cette tendance platonicienne est sensible dans l'un des courants dominants de la philosophie politique contemporaine, soit celui des théories de la justice d'inspiration rantienne. On pourrait en gros distinguer deux périodes dans l'évolution de ce courant. D'abord, une première période du milieu des années 70 au début des années 90, caractérisée par la réception de la théorie de la justice est marqué par un vaste débat sur les présupposés normatifs de celle-ci. Ensuite, depuis une vingtaine d'années, une période surtout traversée par un effort concerté d'appliquer cette même théorie à des questions politiques concrètes qui touchent les démocraties libérales contemporaines ou encore le devenir démocratique de l'humanité. Une bonne illustration de cette seconde phase dans le monde francophone se trouve dans la philosophie politique appliquée développée par Alain Renaud et son équipe depuis une quinzaine d'années. De manière très claire et forte, Alain Renaud affirme que la philosophie politique aujourd'hui, si elle désire être plus que simple répétition universitaire de son histoire, doit mettre les mains à la pâte, c'est-à-dire contribuer à rendre la société plus juste, en travaillant à montrer comment les principes de la théorie rantienne de la justice soient ceux d'un régime démocratique libéral d'orientation social-démocrate peuvent être appliqués dans des situations politiques concrètes et infléchir même l'orientation politique générale que doit prendre la mondialisation. Alain Renaud se fait ainsi l'écho d'une manière de concevoir la philosophie politique et ses tâches qui est aujourd'hui dominante dans de larges pans de cette discipline. Or, la question de l'application soulève immanquablement la question du rapport de la philosophie avec la politique. Si le philosophe désire appliquer la notion du juste qu'il estime vrai, il doit nécessairement passer par le pouvoir politique qui peut la mettre en œuvre. Ceci fut vrai de tout temps et a fortiori dans un régime démocratique. Le philosophe souhaite donc devenir plus ou moins conseiller du prince. C'est la tentation syracusienne évoquée plus haut. Comme chacun sait, Platon a lamentablement échoué à Syracuse et il serait intéressant de revenir sur les raisons de cet échec qui constitue encore aujourd'hui une leçon de modestie pour tout philosophe tenté par la politique. Mais j'aimerais ici soulever une série de problèmes qui touchent plus spécifiquement les conditions d'action politique et les tensions qui ne manquent jamais de surgir lorsque le philosophe souhaite passer à l'action, en particulier dans les sociétés démocratiques contemporaines. L'un des champs d'intervention politique possible pour le philosophe est celui de conseiller du prince. Ce rôle traditionnel de conseiller du prince passe aujourd'hui par celui de l'expert conseil qui est si important dans les démocraties contemporaines. Or, la philosophie politique prépare mal à un tel rôle d'expert conseil. Le philosophe demeure face aux experts des autres disciplines comme un expert est généralité et à ce titre peu utile ou efficace. Pour combler cette lacune, le philosophe pourra toujours entreprendre de devenir à son tour vraiment expert. Il constatera toutefois bien vite que l'acquisition de l'expertise dans n'importe quel champ des politiques publiques demande que l'on y consacre tout son temps et son énergie avant que de pouvoir s'y impliquer de manière judicieuse. Je prends pour exemple la définition des politiques de santé dans nos sociétés. Il ne suffit pas d'avoir des idées politiquement généreuses pour affronter les problèmes auxquels sont confrontés tous les systèmes de santé publique. Il faut fort avant pénétrer dans la mécanique de ces systèmes pour conseiller efficacement le décideur public à ce propos. L'acquisition de l'expertise passe, entre autres choses, par la maîtrise de savoirs scientifiques et empiriques divers. Il ne s'agit pas seulement de dominer une vaste somme d'informations sur un sujet, il faut aussi être en mesure de les trier et de les évaluer. Pour reprendre mon exemple, il faut acquérir des notions de médecine, d'administration publique, de sociologie ou encore d'anthropologie de la santé pour être au niveau dans le travail de conseil. Plus la société se complexifie, plus le flux d'informations devient important, plus le travail d'expertise tend à se spécialiser, à se fragmenter. On pourrait me répondre alors que le philosophe demeure par sa formation celui ou celle qui peut effectuer une synthèse. Fort bien, mais une telle synthèse exige une maîtrise rare de plusieurs savoirs d'experts. Si le philosophe est sérieux dans son travail d'application, il devra tôt ou tard devenir un expert. Et il n'est pas sûr alors qu'il aura encore le temps d'être un philosophe, c'est-à-dire de mener une réflexion à distance de sa société. On ne saurait trop insister sur cette dimension temporelle propre à la réflexion philosophique. Si elle est cruciale pour le philosophe qui devient expert conseil, elle devient encore plus brûlante pour le ou la philosophe qui désire s'engager dans l'action politique plus concrète. La temporalité de la réflexion philosophique ne correspond pas à la temporalité propre au monde de l'action politique. Quand le philosophe décide de jouer le jeu de l'action, il est alors forcé d'épouser les rythmes de la vie politique. Or, le tempo de l'action politique a toujours été celui de l'urgence, qui est peu propice à la réflexion distancée et calme nécessaire à la philosophie. Ce tempo s'est d'ailleurs grandement accéléré dans les dernières décennies jusqu'à mettre en péril la possibilité même d'une action politique réfléchie. Dans ces conditions, le philosophe éprouvera de grandes difficultés à en faire entendre sa voix à travers la cacophonie médiatique incessante. Une chose est néanmoins sûre, le ou la philosophe qui souhaite jouer le rôle de conseiller ou de conseillère politique ou encore d'influencer sur la politique devra se soumettre au diktat du temps court de la politique, ce qui ne manquera pas de perturber les conditions normales d'exercice de la réflexion proprement philosophique, voire de la rendre impossible. Encore là, la formation philosophique ne prédispose pas bien à la vie politique. Le philosophe apprend le retrait et la considération des principes les plus généraux, alors que l'on devient un homme ou une femme politique de talent par l'expérience réelle de l'action politique. Il n'y a pas vraiment d'école pour apprendre l'art politique, sinon l'école même de la vie politique. Une seule chose essentielle à la vie politique peut à la rigueur s'apprendre, et le philosophe ne l'enseigne pas, la rhétorique ou l'art de la persuasion par la parole. Dans le meilleur des cas, la philosophie nous apprend à bien raisonner et à convaincre, mais pas nécessairement persuader les publics les plus divers du bien fondé des principes dégagés par la raison philosophique. La philosophie a d'ailleurs toujours eu du mépris pour la rhétorique, et la rhétorique le lui a bien rendu. Cette opposition entre rhétorique et philosophie remonte à la naissance même de la philosophie, et elle a une grande importance pour mon propos. En effet, cette opposition portait dans l'Antiquité sur ce qui était nécessaire pour former l'homme politique idéal. Devait-il être philosophe ou orateur? Les sophistes et les maîtres de rhétorique soutenaient que seule la maîtrise du discours permettait d'accéder au pouvoir, alors que les philosophes insistaient sur la pratique des vertus et sur la quête des principes justes. Les premiers avaient un avantage certain sur les derniers dans la mesure où ils comprenaient le noyau central de l'action politique, la parole persuasive. Si la parole persuasive fut de tout temps une arme de choix dans l'exercice du pouvoir, elle est capitale dans les régimes démocratiques et, pourrait-on même dire, encore plus essentielle dans une société comme la nôtre, dominée par les médias et les technologies avancées de communication. Dans la parole persuasive, les arguments rationnels ont certes leur importance, mais ils sont menés pour obtenir la victoire sur l'adversaire et non pour eux-mêmes. S'il veut être efficace, le discours philosophique doit subir une traduction rhétorique, ce qui ne va jamais sans une perte fondamentale de son orientation première, soit la quête libre de la vérité. Pour devenir un politique, le philosophe doit se faire combattant de la parole, ainsi se plier aux lois de la rhétorique, au risque de s'oublier lui-même. Pour être entendu dans l'arène politique, tout philosophe devient plus ou moins sophiste, et plus il s'engage profondément dans le combat politique, plus il se voit forcé d'utiliser les armes de ses adversaires. Le terme de sophiste ne devrait pas nous effrayer outre mesure. Il renvoie à la réalité politique la plus banale. Pour persuader du bien fondé d'une action politique, le politicien ne peut pas faire appel à la seule raison, mais il doit jouer sur toute la gamme des sentiments humains. Le philosophe répume avec raison à cet usage de la parole, ou plus précisément de sa parole. Il a tendance à croire aujourd'hui naïvement qu'il pourrait changer cet état de fait et rendre la discussion publique rationnelle, c'est-à-dire comme la version idéalisée d'une discussion philosophique. Personne ne peut être contre le fait de souhaiter davantage de raison dans les débats publics, mais ce serait commettre une confusion des genres dommageable que de vouloir rabattre sans plus sur la vie publique démocratique ce qui est propre à la discussion philosophique idéalisée. Pour reprendre en le modifiant le célèbre adage de Pascal, la vie politique a des raisons que la raison ne connaît point. Il ne s'agit pas, bien sûr, pour moi, de dénier toute raison à l'action politique et au débat qui traverse nos sociétés. Je veux simplement souligner que cette raison politique n'a pas la même orientation et couleur que la raison philosophique. La raison philosophique est nourrie par un examen attentif de toutes les possibilités contenues dans les principes, et un tel examen suppose une suspension indéfinie de la décision, alors que la raison politique est toute orientée vers l'action et la nécessité de la prise de décision. Là où le philosophe politique multiplie délibérément les difficultés pour aiguiser le tranchant de ses arguments, le politique doit trancher dans l'urgence des circonstances qu'il ne contrôle pas. S'il y a un savoir politique, voire une sagesse politique, elle ne peut venir que d'une expérience politique concrète qui combinerait à la fois la considération des principes et leur mise en application dans le feu de l'action politique. Le politique accompli serait celui ou celle qui aurait appris au fil du temps et par l'expérience des situations les plus variées à prendre la décision la plus juste dans des circonstances données. Cette action juste a certes un rapport avec des principes plus généraux de justice qui restent présents à l'esprit du politique accompli, mais ne s'y laisse pas réduire. En certaines circonstances d'ailleurs, l'action juste exige une suspension temporaire de ce même principe considéré abstraitement. Tout l'art politique consiste à bien savoir distinguer les différents types d'actions pour différentes circonstances. Autrement dit, il faut apprendre à naviguer dans une mer où des brumes épaisses se répandent fréquemment. Or, on ne peut apprendre à naviguer en consultant uniquement les cartes marines. On doit naviguer soi-même pour devenir un pilote accompli. On aura compris la teneur de l'argument général soumis ici. Si la philosophie politique appliquée veut vraiment devenir appliquée, Elle doit se soumettre toujours davantage à la discipline de l'expertise ou accepter les exigences de l'action politique concrète. Dans ces deux cas, le philosophe politique appliqué devrait s'éloigner toujours davantage du terrain purement philosophique pour assurer sa compétence dans des champs de la connaissance et de l'action pour lesquels il n'est pas préparé par sa formation, ou s'il l'est, ce sera de manière fort incomplète. On pourrait fournir d'autres exemples des tensions qu'engendre nécessairement le désir de rendre la philosophie utile dans l'œuvre transformatrice du monde. Ils relèvent tous en fait d'une même unique tension qui est un thème classique de la philosophie. Tension entre réflexion et action, ou plus précisément, tension entre les conditions qui sont nécessaires pour la réflexion à distance du monde et les conditions imposées par la volonté d'intervenir par l'action dans le cours des choses. Ce que nous avons appelé la tentation syracusienne de la philosophie politique contemporaine est une belle illustration de cette tension qui est aussi vieille que la philosophie. Cette tentation provient d'un malaise que la philosophie ne manque jamais d'engendrer et qui est probablement accentué par notre civilisation qui est vouée si entièrement au travail de transformation du monde et à l'organisation efficace de toutes les sphères de l'activité humaine. Dans une telle civilisation tournée vers l'action, l'idéal philosophique contemplatif traditionnel trouve difficilement sa place et il peine à se justifier. Le retrait philosophique est perçu comme une vaine fuite des réalités du monde ou encore comme un refus immoral d'embrasser les idéaux de la justice. Une justification de la philosophie qui ne repose que sur le simple fait de la jouissance de l'acte de la pensée est vue comme un épicurisme condamnable. On veut chasser les philosophes de leur tour d'ivoire et qu'ils contribuent de manière concrète à l'édification d'un monde meilleur. Cette demande est d'ailleurs accueillie avec empressement par les philosophes politiques contemporains qui veulent ainsi se libérer d'un sacerdoce qui pèse depuis longtemps déjà lourdement sur leurs épaules. Si le philosophe ne peut trouver dans le seul fait de philosopher la justification de son existence, n'accueillera-t-il pas alors avec soulagement toutes les propositions qui visent à rendre la réflexion philosophique utile et en prise sur la réalité? Le tournant de la philosophie politique contemporaine vers l'application est en fait une réponse à la crise plus générale de la philosophie qui a culminé dans les discours sur la fin de la philosophie, entendu ici comme fin des idéaux traditionnels ou encore fin de la manière traditionnelle de philosopher. Après la fin de la métaphysique, il ne restait plus rien aux philosophes à contempler. Les idoles de la contemplation philosophique ayant été renversées par la critique exercée sans pitié par les philosophes eux-mêmes, on devrait remiser ces idoles dans le musée de l'histoire de la philosophie et s'atteler à la tâche de définir de nouveaux buts pour celle-ci. Or, il n'est pas sûr que la mise en œuvre de ces nouveaux buts ne conduise à la dissolution dernière de la philosophie comme activité autonome. La fin théorique de la philosophie culminerait alors dans sa mort effective. À une époque pas si lointaine, on annonçait la mort de la philosophie avec des accents tragiques et on éprouvait encore de la nostalgie pour les rêves exaltants de la philosophie traditionnelle. Aujourd'hui, la cause semble entendue et on ne sait même plus guère dans quel cimetière la philosophie a été inhumée. Est-il besoin de préciser que la tentation syracusienne de la philosophie politique contemporaine est une réponse honnête à une vraie question? Pourquoi continuer à croire à l'idéal d'une philosophie suffisante à soi alors que cette conception a perdu, semble-t-il, tous les appuis traditionnels qui la justifiaient? Un attachement sentimental et nostalgique à cet idéal ne peut constituer un argument satisfaisant pour le défendre. Il faut plus. Or, c'est précisément la difficulté à formuler un argument fort justifiant l'autonomie de la philosophie et de la vie philosophique qui rend la réfutation de la tentation syracusienne si difficile. On peut certes montrer, comme j'ai essayé de le faire ici, par la négative, ce à quoi devrait conduire la pratique de la philosophie politique appliquée, la dissolution d'une pratique autonome de la philosophie. Mais il est en revanche infiniment plus délicat d'apporter une réponse claire aux défis philosophiques posés par la philosophie politique appliquée. Cette réponse se trouverait peut-être dans la considération de ce qui est nécessaire pour préserver la liberté de pensée propre à la philosophie et de souligner le caractère fortement personnel, voire individualiste de cet acte de pensée. L'interrogation philosophique commence au moment où l'évidence des réponses est ébranlée par la force des questions. Il faut un grand effort de l'esprit pour se maintenir ainsi dans l'espace de l'interrogation. Que cette interrogation soit infinie et qu'elle semble ne pouvoir jamais trouver un terme n'est pas une raison pour l'abandonner ou encore en condamner l'inutilité même. N'y a-t-il d'ailleurs pas une forme subtile de dogmatisme à prétendre que la critique a refermé définitivement les questions que la philosophie traditionnelle posait? Une critique de la critique ne pourrait-elle pas révéler un nouvel accès à des questions sur lesquelles la critique avait jeté un anathème? N'est-il pas possible que l'enseignement essentiel de la philosophie ne soit pas de nous apprendre à régler les questions, mais plutôt de nous révéler par quels aspects elles ne seraient jamais épuisées par le travail de la pensée? Plus encore, dans l'acte d'interrogation sans fin, l'être humain ne trouve-t-il pas sa dignité la plus haute? L'homme est en effet l'animal interrogeant. La philosophie ne fait que pousser à ses ultimes limites cet acte d'interrogation en l'intensifiant et en faisant même son objet. Le philosophe découvre sa nature en se contemplant dans le mouvement de l'interrogation propre à sa pensée. Or, cette activité d'interrogation appartient au plus intime de son être et le met nécessairement à distance à l'égard du monde. Comme cette activité interrogatrice est fragile, il doit la protéger contre toutes les tentatives de la faire cesser. La tradition philosophique contient certes beaucoup de réponses à des questions, mais elle est surtout une école d'apprentissage de ce qui est nécessaire aux philosophes pour préserver vivant le mouvement d'interrogation philosophique. Les philosophes doivent donc faire un effort constant pour préserver et transmettre l'élan de l'interrogation philosophique. C'est peut-être là leur mission essentielle. Merci.
Nous avons combien de temps?
On prend jusqu'à 10, voire écart. Si
bon, alors je vais essayer d'être bref. Hein, clairement. J'ai fait mon exposé précédent. Alors, bon, merci beaucoup pour cet exposé qui touche un point évidemment essentiel, c'est-à-dire quand on est philosophe de métier, on ne peut pas évidemment ne pas être sensible à cette conclusion et à l'interrogation qu'elle fait surgir sur l'interrogation philosophique elle-même et sur son caractère à la fois absolument nécessaire. J'allais presque dire éternel en tant que correspond à l'expérience de la pensée elle-même et de la pensée portée par le sujet qui pense. Le point sur lequel je voudrais juste porter un accord profond, c'est il y a un élément individuel, voire individualiste, inextirpable de l'expérience philosophique et de sa pratique. Bon, mais alors une fois qu'on a dit tout ça, les questions s'ouvrent tout de même de la communication de la philosophie, de sa présence dans la cité et de sa présence dans, pour nous, la société. Est-ce que la préservation, la transmission de l'élan de l'interrogation philosophique peut faire l'économie d'une interrogation sur les canaux, les formes d'expression publique auxquelles la philosophie aussi est soumise aujourd'hui? Alors, je vais d'abord faire une remarque. Nous philosophons, nous les philosophes de l'école des hautes études en sciences sociales, c'est une remarque institutionnelle. À l'intérieur d'une institution, donc, qui comporte d'autres disciplines. Et nous avons d'abord ce rapport à d'autres disciplines. Pas aux politiques, hein, à d'autres disciplines. Or, là aussi, la question de l'expertise se pose. Dans votre analyse, la question de l'expertise et le procès fait à l'expertise et à la philosophie appliquée comme finalement produisant l'expertise avait une direction. La direction, c'était la suivante. Le philosophe ne peut pas respecter la nature de ses questions en devenant expert. Parce que alors, et donc en rejoignant le politique, parce qu'alors, dans ces conditions, il se trouve exposé à l'exercice d'un art. C'est-à-dire, finalement, à une exigence de pas simplement respecter le grain du réel, hein, mais finalement couler son action dans le réel. La laisser se déterminer par les conditions réelles. Et le politique, de ce point de vue, a toujours un coup d'avance, d'une certaine manière. Il sait toujours quelque chose de plus dans ces conditions. Mais alors, dans le cas de l'immersion de la philosophie dans d'autres disciplines qu'on va appeler les sciences sociales, pour correspondre à l'appellation de notre institution, le problème de l'expertise se pose de façon un peu différente, et j'aimerais vous poser cette question. La question n'est pas tant pour juger de la possibilité de l'expertise de rejoindre le grain du réel ou d'adapter l'action au réel, que de savoir quel statut, quelle place on accorde aux questions qui viennent de la réalité. Voilà. Donc l'expert, c'est pas seulement celui qui doit ajuster sa pensée, la faire correspondre au réquisite de la réalité, mais c'est celui qui est toujours finalement soumis à une demande. Voilà. C'est cette question de la demande. Or moi, dans l'expérience que j'ai faite ici depuis des années là maintenant, je me rends compte que cette question de l'expertise et du risque de l'expertise, c'est pas tant une question qui guette d'abord le philosophe. C'est une question qui guette d'abord les sciences sociales. Voilà. C'est une question qui guette d'abord les sciences sociales. J'allais dire, tragiquement, c'est pour elles que la question de l'expertise, pas donc, encore une fois, conçue comme un problème d'adéquation à la réalité, hein, mais comme un problème d'adresse venant, de demande venant de la réalité, c'est pour elle que l'expertise est un problème. Alors, dans ce cas-là, si on admet cette configuration-là, est-ce que le problème du philosophe ne change pas? C'est-à-dire, s'il prend acte du fait que des savoirs spécialisés sur la société ont ce problème, hein, d'être à la remorque, hein, de la société qu'elles ont à comprendre, de subir les questions qui viennent d'elle plutôt que de l'éclairer. Alors le philosophe a peut-être une nouvelle mission, là, dans ces conditions. Hein. C'est non pas de préserver son interrogation solitaire et de ne pas devenir expert lui-même, mais d'aider les sciences sociales à ne pas devenir des experts. Voilà. C'est une reformulation de vous voyez, j'espère que j'ai respecté
votre... Tout à fait. Voilà. Écoutez, il y a sens social et sens social.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que finalement, la demande, employons les termes, la demande sociétale...
Oui, j'ai résumé l'introduction du livre.
Non, mais la demande sociétale qui est adressée à la sociologie, au sens social en général... Qui est très lié aussi aux demandes, disons, de politique publique, puis il y a une question financière là-dedans, les projets de recherche, les organismes subventionnaires de recherche, prédéterminent les objets de recherche. Et bien sûr que dans les sciences sociales, on peut dire qu'il y a un village gaulois de résistants. C'est-à-dire que ce village gaulois de résistants veut finalement porter une interrogation sur le social qui ne se laisse pas réduire à l'expertise. D'accord? Mais c'est un village au loin. Parce que le gros des troupes n'est pas là. En tout cas, en Amérique du Nord, le gros des troupes n'est pas là. Le gros des troupes est dans, finalement, on pourrait dire, dans le travail de l'expertise. Et donc, d'une certaine façon, il peut y avoir un front commun de ces sciences sociales qui s'interrogent sur le social, le politique, et de la philosophie politique qui, elle, ne veut pas laisser son discours s'arrimer simplement à une philosophie politique de l'application de l'expertise. Il peut y avoir un point commun dans la mesure où, finalement, c'est une sorte d'interrogation qu'on peut faire aux gens qui sont, finalement, qui arriment les savoirs uniquement, justement, cette demande sociétale. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Donc, il y a un dialogue possible entre philosophie et, finalement, sciences sociales sur ce terrain-là, un front commun possible d'interrogation sur le politique et le social qui permet, d'une certaine façon, de remettre en question une vision trop étroite du phénomène social telle que la sociologie ou les sociologies des experts le font voir. Et je dirais peut-être juste un dernier commentaire parce que ceci est très influencé, ce que je viens de dire, c'est un peu une saute d'humeur, hein, ce texte-là, parce qu'au fond, c'est vraiment influencé par ce qu'on pourrait appeler le développement depuis 25 ans de la philosophie politique en Amérique du Nord. Et ce que j'ai vu comme finalement une sorte d'approfondissement ou de déperdition de la puissance d'interrogation de la philosophie politique, parce que les philosophes politiques eux-mêmes en sont venus qu'à définir leur propre travail comme répondant à des demandes qui viennent de la société. Et même ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que les philosophes politiques eux-mêmes demandes qui viennent de la politique, et ils se voient comme des définisseurs des politiques publiques. Et ce que je leur dis, écoutez, là, si vous voulez en faire de la politique publique, faites-en réellement. Faites la santé publique, ben, devenez des experts en administration des systèmes de santé publique. Ne restez pas dans une espèce d'entre-deux, entre finalement, oui, on veut faire de l'application, mais en même temps, on veut continuer la philosophie de reste. Non, allez-y. Et là, il y a un problème, et je termine là-dessus, vous l'avez tout à fait indiqué, c'est-à-dire on a le problème du savoir d'expert à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est obligé, lorsqu'on est sur une table pour définir des politiques en santé publique, ben, vous devez être aussi bon que les autres, les sociologues de la santé, l'anthropologue, et le reste pour pouvoir être sur le plein pied de la discussion. Donc, c'est... Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui. En tout cas, c'est...
Il y avait une question de monsieur, et puis je les prends de monsieur. Très bien. Allez-y.
Merci. Non, mais, merci pour votre présentation. Vous avez commencé en disant que votre présentation serait antithétique à celle d'avant. Mais il me semble qu'en fait, on passe autant de positions que ça, parce que, en gros, vous défendez la même conception de la philosophie comme. C'est la façon dont il a défendu Rawls de l'objection d'être un idéologue. C'est l'idée qu'en fait, c'est seulement une façon d'interpréter les mondes. Pour parler avec Marx, vous partagez cette idée de la philosophie comme façon de seulement interpréter le monde. Personnellement, je dois admettre que si c'est que vous, toi, il me semble, vous avez tous raison dans ça, pour moi, ça serait, j'arrêterai tout de suite, ce serait invivable. Je n'y verrais aucun intérêt. La philosophie politique serait comme la peinture. Pour vous que la peinture soit pour l'art, selon moi, ça c'est aussi contestable. Mais si c'était comme ça, moi j'arrêterais tout de suite. Donc je me demandais pourquoi, où est-ce que je départ de votre perception de la philosophie. Et je me demande si vous êtes d'accord que ça c'est le point de désaccord. En fait, vous supposez que si la philosophie doit être appliquée, si la philosophie doit parler des politiques, elle doit le faire comme Platon. Vous le supposez tous les trois. C'est-à-dire, elle doit parler dans l'oreille du prince, elle doit donner des recettes pour comment changer le monde. Mais est-ce que ça, c'est la seule façon dont la philosophie peut être appliquée? Quand Marx dit non, le but de la philosophie, c'est pas d'interpréter le monde, c'est de changer. Il ne suppose pas que le but de la philosophie, c'est de donner des recettes. Mais au contraire, c'est une autre idée. C'est l'idée que la philosophie doit donner les outils pour une critique. Donc, une philosophie politique ne doit pas nécessairement être platonicienne, elle peut être marxiste, et donc ne pas de vouloir conseiller les princes, mais au contraire, comme Machiavel le montre sous certaines interprétations, conseiller le peuple.
Écoutez, surtout sur votre première, quand vous avez dit oui, bien sûr, quand vous avez dit au fond, vous nous ramenez dans le même sac, hein, c'est-à-dire M. Cassanti, Luc Foineau et le reste, et malheureusement, Luc Foineau n'est pas là, et j'aurais voulu discuter avec lui sur finalement l'intention finale de la théorie de Rawls, parce qu'au fond, son argument, c'est de dire que cette théorie de Rawls est une théorie philosophique pure, alors que selon moi, il y a des ambivalences concernant cette question du statut philosophique dernier de la théorie de Rawls. Et je dirais, même si d'une certaine façon la théorie de Rawls avait une intention philosophique, disons, pure ou platonicienne, comme vous l'indiquez, son développement concret en Amérique du Nord, ou les effets que cette théorie a eus, ce n'est pas un effet de théorie philosophique pure, parce que les gens qui se déclarent rawlsiens ont très vite passé au travail d'application. Si vous prenez dans le contexte nord-américain ou dans le contexte même français, ceux qui ont été des adhérents à la théorie rawlsienne, tout à coup, se sont mis à vouloir appliquer concrètement cette théorie-là. Et c'est normal parce que la théorie exige d'une certaine façon que les principes idéaux qui ont été définis au plan normatif doivent trouver un certain rapport avec le monde pratique. Et ces principes-là, en gros, comme je l'ai indiqué, sont les principes de la démocratie libérale d'orientation social-démocrate, point. Donc, d'une certaine façon, la théorie rawlsienne, elle est parfaite parce qu'elle est au fond à la fois justificatrice de l'ordre politique tel qu'il est, et en même temps, elle est parfaite parce qu'elle rappelle à ces régimes-là, finalement, les principes qu'elles ne suivent pas toujours, ou du moins, elle veut présenter des outils pour permettre une meilleure adéquation entre les principes et les cas particuliers. Sur la question de fond, je ne peux pas vous convaincre comme vous ne pouvez pas me convaincre. C'est-à-dire, vous avez finalement une position marxiste dans laquelle vous dites, au fond, en gros, la philosophie, c'est une praxis transformatrice du monde, alors que je maintiens une posture traditionnelle, vous l'avez dit, vous auriez dit, dans un autre langage, à une autre époque, on aurait dit une position idéaliste. Donc, à quelque part, je défends finalement le statu quo, peut-être les intérêts de la classe bourgeoise, vous n'allez pas aussi loin que ça. Mais du moins, voyez-vous, notre discussion s'arrête tout de suite parce qu'en quelque sorte, le présupposé fondamental sur la nature même de la philosophie, on ne s'entend pas sur qu'est-ce que doit être la philosophie. Je maintiens, par contre, que un des vices de la pensée critique, disons marxiste, c'était peut-être d'avoir une communauté de vue trop forte avec justement cette puissance transformatrice du monde et donc d'une certaine façon de ne pas allouer dans l'acte même de la pensée une distinction entre théorie et pratique qui permettait effectivement une critique, une distance critique par rapport à ce monde-là. Mais ça, c'est une autre question.
Il y avait monsieur, pardon, il y avait monsieur avant.
Pour éviter tout conflit d'intérêt éventuel, je précise que je suis doctorant, monsieur Renaud. j'ai un certain nombre de demandes de précision à vous faire, monsieur Tanguet. D'abord, est-ce que quand vous parlez d'un temps politique comme temps exclusivement de l'urgence, est-ce que ce n'est pas un peu réducteur de détemporalité politique? On aurait pu parler, par exemple, de la temporalité du mandat aussi, ou par exemple, si on s'intéresse au comité consultatif national d'éthique en France, il ne me semble pas que son temps de consultation soit précisément toujours le temps de l'urgence, pas toujours.
Ouais.
Par ailleurs, chaque pouvoir politique a un peu son agenda, son propre agenda, sa propre temporalité. Donc, est-ce que là, il n'y a pas peut-être quelque chose à préciser? Deuxième point, j'essaye d'être le plus rapide possible. Quand, quand la décision politique, quand le jugement politique peut être pris au fondement d'une rationalité de court terme, d'une rationalité stratégique, est-ce que ce n'est pas, on va dire, accidentel dans, dans le jugement politique? C'est-à-dire qu'on sait que certains de nos jugements politiques peuvent être fondés sur des rationalités plus ou moins complètes. Et il me semble que dans la difficulté de la rencontre de la philosophie avec le politique, il y a cette question de la complétude de la rationalité. Troisième remarque, est-ce que vous ne réduisez pas l'expérience syracusienne? Parce qu'elle est très complexe, cette expérience, déjà elle est disjonctive, c'est-à-dire philosophe roi ou roi philosophe. Sachant que Platon, ce que Platon appelle un philosophe, c'est celui qui suit le cursus éducatif du philosophe décrit dans la République, ce qui ne correspond plus à ce qu'on appelle aujourd'hui un philosophe. Et que dans le deuxième côté de la disjonction, roi-philosophe, il s'agit de suivre l'enseignement philosophique pour quelqu'un qui n'est pas du tout philosophe. Et donc l'expérience syracusienne, c'est aussi celle-là. Sur cette remarque, l'expérience, la triple expérience syracusienne, c'est l'expérience d'être congédié, de ne pas pouvoir s'enfuir, de vouloir s'enfuir, d'être vendu. Aussi de ne pas être compris. C'est une expérience qui est très forte, qui est très riche et peut-être qui a pensé dans toute sa complexité pour le philosophe aujourd'hui. Voilà.
Écoutez, je vous l'accorde tout à fait. Le premier point sur la question de la temporalité politique, écoutez, il y a beaucoup de rhétorique là-dedans. Donc, je comprends tout à fait ça, qu'au fond, les acteurs politiques, les hommes et les femmes politiques, tous les exemples que vous avez donnés sont tout à fait justes. Il n'y a pas toujours l'urgence ou la pression, bon, etc. Je vous donne une anecdote, mais qui finalement n'est pas de réponse vraiment. Pierre-Éliott Trudeau, qui est probablement, qui était premier ministre du Canada, qui était probablement le père fondateur moderne du Canada, disait à un moment donné, il avait réfléchi auparavant beaucoup, il disait, à partir du moment où je suis arrivé en politique en 1965, j'ai cessé de réfléchir. Il ne voulait pas dire qu'il avait cessé de penser, d'avoir des considérations de principe, mais il voulait dire que avant, dans sa carrière académique, il avait le temps, finalement, l'espace nécessaire à une réflexion gratuite sur les principes. Et au moment où il est rentré dans le combat politique, tout à coup, l'accélération du temps fait qu'en quelque sorte, ce temps-là est moins présent. Donc, on peut s'accorder sur le fait que ce temps-là est moins présent. Et ensuite, la deuxième question, sur la question de la rationalité stratégique, j'ai pris soin de ne pas réduire l'action politique à une telle rationalité stratégique, parce que j'ai bien dit que, finalement, l'action politique véritable est pour moi une sorte de va-et-vient entre, finalement, les circonstances, les contingences de l'action, puis ensuite la considération des principes. Autrement dit, l'homme ou la femme politique est toujours pris entre des principes généraux, des valeurs qu'elle détermine, qui sont déterminées, qu'elle poursuit, des biens politiques et ensuite une rationalité stratégique. Et je pense que la plupart des acteurs politiques sont dans cette espèce de mouvement entre principes et finalement action politique. Donc, la rationalité n'est pas purement stratégique, pour reprendre votre terme. Et ensuite, sur la question de l'expérience syracusienne, bien sûr, je ne suis pas rentré dans le détail, parce que c'est très intéressant, mais je vous dirais quelque chose, c'est que ce qui est fascinant, c'est pour moi ce qui m'a toujours troublé, c'est est-ce que d'une certaine façon, la fondation de l'école par Platon, d'une école de philosophie, ne vient peut-être pas suite, finalement, cet échec syracusien. Autrement dit que un acte fondateur, finalement, de la tradition philosophique fut le fait que, face à son échec d'établir, finalement, le régime qu'il voulait, Platon, d'une certaine façon, s'est rabattu sur l'éducation philosophique, ou ce que vous appelleriez, finalement, le roi philosophe, ou ce que Platon dit, finalement, dans l'expression « la cité en parole » plutôt que « la cité en réalité ». Autrement dit, c'est aussi bêtement que ça, puisqu'on ne peut pas établir la vraie cité dans la réalité, nous allons l'établir à travers la dialectique et à travers la parole, et nous allons l'établir dans une école, un lieu finalement fermé, dans lequel nous allons reconstruire ensemble cette cité en parole, à travers la dialectique. Et donc, la véritable royauté, c'est peut-être celle-là, celle de la cité en parole et non pas de celle de la cité réelle. Donc, il faudrait peut-être ajouter cette dimension.
Toute petite question. J'ai l'impression qu'entre la figure du philosophe, celle de l'expert et peut-être des chercheurs de la science, des sciences sociales, il y a une figure que je perds un petit peu et j'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus. Que faites-vous de la figure de l'intellectuel, du spectateur engagé, d'une certaine manière, qui doit indiquer la réalité du monde? Où est-ce que vous la positionnez dans tout ça?
Oh, c'est une question difficile parce que une des impulsions de ce travail vient du fait qu'au Québec, dans le domaine de la philosophie politique, il y a plusieurs post-Rawlsiens qui, ces dernières années, sont devenus des intellectuels publics, engagés dans des causes. Des intellectuels, finalement, on pourrait dire engagés. Et il y a des pics dans mon texte concernant cela, parce que ce que j'indique, c'est la difficulté de la position de l'intellectuel, surtout aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce que l'intellectuel public, lorsqu'il intervient, rentre dans le maelstrom finalement médiatique, hein? Sur Facebook, sur son blog. Donc, il devient, excusez-moi l'expression, un faiseux d'opinion. Autrement dit, un producteur d'opinion. Dans quel sens? Parce que s'il était établi comme figure intellectuelle importante, les médias qui sont toujours, acheteurs, qui veulent toujours, sont toujours preneurs d'opinions, vont constamment le solliciter sur tous les sujets possibles et impossibles. Et là, cette figure de l'intellectuel public,
Mais doit-on l'emprisonner vraiment?
Non.
Il y en a
qui peuvent faire autrement. Ils sont rares. Oui. Tu sais, vous avez parlé de spectateurs engagés, excusez-moi, mais Raymond Aron, des Aron, dans les générations, il n'y en a pas énormément. C'est-à-dire quelqu'un qui peut à la fois avoir cette espèce de jugement, ce que M. Manant appelle là, un peu le grand orateur, là, c'est-à-dire le Cicéron, celui-là qui est à la fois philosophe, qui intervient dans les affaires publiques, qui est capable d'avoir un jugement éclairé et le reste. Très souvent, ce qu'on a comme intellectuel public, le danger, c'est que, surtout dans le contexte actuel, c'est que l'intellectuel public devient sollicité constamment. Vous voyez ça, par exemple, sur les médias, à la télévision. Et là, quand ils rentrent sur Facebook, en plus, quand ils ont leur blog, ben là, ça n'arrête pas parce qu'ils sont constamment sollicités le reste. Il suffit de... Ben, vous avez probablement eu cette expérience-là. Moi, j'ai été étonné de voir, je ne citerai pas de nom, finalement, les blogs de certains collègues philosophes politiques, ben, écoutez, la déperdition du discours arrive très, très vite. On arrive vite dans l'égout, c'est-à-dire dans l'insulte, dans la propagande. Bon. Et donc, ça, c'est comme un peu exagéré. C'est une mise en garde que je fais. Moi, je fais une mise en garde à tous les autres, c'est-à-dire de faire attention à finalement à ce que le discours philosophique, à un moment donné, perde de son acuité parce qu'en quelque sorte, entraîné par le mouvement ou le désir très généreux de finalement de collaborer au débat public, le monstre médiatique, le monstre de Facebook, le monstre des blogs, hein, va finalement vous donner le baiser de la mort et tout à coup, vous allez vous regarder dans le miroir. Et vous ne vous reconnaîtrez plus. Et c'est comique ce que je dis, mais c'est sérieux.
Il y avait une question de mademoiselle,
c'est pas exactement sur le même ton ni le même point, puis de toute façon, vous y avez un peu répondu en évoquant avant, parce que ma question se dirigeait là. J'avais une certaine critique ou nuance à porter, c'est que j'avais l'impression que vous recherchiez toujours à dire, ben, la philosophie politique, puisqu'on n'arrive pas à l'unir, ça veut dire que la dimension philosophie et la dimension politique sont en opposition.
Exactement.
Parce qu'on n'arrive pas à les unir. Et il me semble que le mouvement unificateur est un mouvement très philosophique. C'est une question pour le philosophe, alors que l'homme politique ressent moins ce problème-là d'unir ça, c'est-à-dire la compréhension du tout, en même temps les nécessités de l'action. Bon, je suis tout à fait d'accord avec vous que le philosophe va disons tout s'entendre devant lui, alors que le mouvement inverse, c'est celui de la politique, c'est celui de la décision. Mais il me semble qu'on pourrait concevoir quelque chose comme une rationalité plurielle dans laquelle certains principes ne sont pas conciliables, mais il y a différents registres. Évidemment, là, je pensais à Raymond Aron, parce que sans jamais simplifier les oppositions, les contradictions des différents ordres, il y a une possibilité quand même de penser à la fois la politique et aussi la philosophie. Le fait qu'il ait dit, étant jeune, que la question à laquelle il avait sans cesse en tête, c'était celle, si vous étiez ministre, que feriez-vous?
Oui, bien sûr.
Mais il y a quand même une démarche philosophique, disons, donc une rationalité plurielle, me semble-t-il.
Mais la vraie opposition, c'est celle-là, c'est retrouvée entre le grand orateur antique, finalement, la Cicéron, et ensuite Platon, ou l'école platonicienne, d'une certaine manière. Pour quelle raison? Parce qu'au fond, qu'est-ce qui nous donne, qu'est-ce qui nous permet de mieux comprendre le réel? Qui comprend mieux le réel, puis entre autres le réel politique? Ton argument, c'est de dire qu'à quelque part, Raymond Aron, parce qu'il est ce grand orateur, Cicéron, est capable à la fois de comprendre les principes de la philosophie, c'est-à-dire le platonisme, et il est capable à la fois de comprendre ce qu'est le politique, donc sa rationalité est plus importante, sa rationalité est plus englobante, donc plus riche. Il est capable de mieux, finalement, appréhender le réel. Donc, alors que mon point de vue, voyez-vous, c'est que mon point de vue est plutôt de chercher contre une tendance qui est très, très forte à finalement, au contraire, à arracher le plus possible la philosophie de cette tentation-là, de la tentation, disons, rhétorique. Parce que l'ensemble des qualités qui sont requises à une âme humaine pour être finalement cet orateur ou cette oratrice, hein, ça peut être une femme aussi, cet ensemble de qualités sont beaucoup plus rares que finalement peut-être les qualités même de la philosophie.
Oui, je comprends. J'ai une
deuxième
question très rapide sur... Pas le doctorant d'Alain Renaud, mais Pierre Malan, mais je vais quand même, je ne voudrais pas me défendre Alain Renaud, mais je voudrais juste continuer, vous avez évoqué Alain Renaud, il me semblait, vous avez parlé de la perspective de la philosophie politique appliquée par rapport à la politique, mais il me semble qu'on pourrait voir ce type d'entreprise-là comme une contribution science sociale plutôt que la vie politique. Enfin, je pense à l'idée d'Alain Renaud, c'est de dire on peut faire une philosophie politique appliquée, puis à la différence des sciences sociales, qui pour certaines d'entre elles ne reconnaissent pas leur dimension normative, nous allons reconnaître la dimension normative qui est déjà là, mais nous allons la rendre explicite. Donc, je me demandais si on ne peut pas considérer qu'il y avait un bienfait dans ce type de philosophie politique.
Non, mais la question normative est réglée. Il n'y a pas de problème normatif. C'est un faux problème. Les problèmes normatifs sont réglés par la théorie. Donc, on n'a pas besoin... Il y a des questions de fine-tuning, d'ajustement entre, finalement, les principes de la justice. Il y a des ajustements à faire. Mais la philosophie appliquée d'Alain Renaud, finalement, est partie du principe que les problèmes principaux normatifs sont. Quand Alain Renaud dit « je ne suis plus qu'ancien », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à quelque part, même ces principes-là, au fond, sont réglés, le reste, on n'a pas à se poser ces questions sur les principes normatifs. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vrais problèmes se situent davantage dans les problèmes d'application. Donc, la philosophie, ce que je dirais à ce moment-là, c'est « écoutez, faites un pas de plus ». Puis devenez expert. Devenez expert. C'est pas honteux d'être expert, là. On a besoin d'être expert, des experts et tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce moment-là, c'est la dissolution de la philosophie elle-même. C'est-à-dire, à un moment donné, on fait autre chose. On fait des sciences sociales. On devient sociologue de la santé. On devient, bon... Mais selon moi, on cesse de faire de la philosophie.
Simplement, une remarque... Il me semble que finalement votre défense de la philosophie pour elle-même rejoint, non pas Rawls, mais en tout cas la défense qu'on a fait subtilement Luc Follot, qui me semble avoir un peu diminué le terrain, en disant dès le début, et en concluant aussi là-dessus, que ce que voulait faire Rawls, c'est nous permettre d'évaluer moralement le politique. Si on s'en tient à une évaluation morale du politique, j'ai l'impression qu'on rejoint votre idée conclusive aussi du rôle philosophique qui consiste à être une critique de la critique. Je me demande si ultimement la mission sociale de la philosophie, sans réduire la philosophie à sa mission sociale, mm-hmm. pour en trouver une, ce ne serait pas simplement, et je mets la barre haut dans le terme simplement, une mission éducative.
Vous me forcez encore à revenir sur la question de Marx, et je vous dirais la chose suivante, si je vous dirais, il est tout à fait, disons, symptomatique des transformations de la théorie de la justice entre le premier et le second Rawls, quand Rawls a été poussé dans ses derniers retranchements concernant, disons, les fondations philosophiques ou normatives de sa théorie, il a dit « Ce ne sont que l'expression des présupposés qui sont déjà donnés dans une société démocratique bien constituée. » Donc, quelle est la tâche de la philosophie, sinon, finalement, de réfléchir aux présupposés d'une société qu'on se donne pour la plus juste déjà d'avance? Donc, à ce moment-là, si on se donne déjà, finalement, ce qui est approuvé, en quelle mesure c'est encore la philosophie politique?
Ça, c'est l'ambivalence, Jérôme, d'accord. Mais le fondement que défend Victor Hugo, qui est de nous permettre de nous interroger sur le fondement de la politique, c'est de là rejoindre un peu plus.
Oui, bien sûr. Non, mais la critique que je fais, que j'aurais fait à Luc Follot s'il avait été là, c'est que Rawls, dans son entretien, s'il dit cela, il ne fait pas cela ou il n'a pas fait cela. Et ça, je suis capable de le montrer. Quand sa théorie de la justice a été remise en question sur ses fondements philosophiques, ah, il a dit, écoutez, au fond, moi, ce que je voulais illustrer, c'est les présupposés qui sont donnés dans un régime particulier, c'est-à-dire la démocratie libérale telle qu'elle a été construite aux États-Unis, dans le political liberalism. Au fond, il a reculé par rapport à, disons, son intention qu'ancienne première. Et c'est là que la transformation dans l'application devient encore plus vraie. C'est-à-dire, c'est un tournant pragmatique maximal. Autrement dit, ce que la théorie politique, la philosophie politique doit faire, ce n'est que, finalement, justifier le consensus ou les consensus qui sont présents dans les sociétés démocratiques de l'Atlantique Nord. Point. C'est ça le travail à faire. Et c'est tout. Et donc, l'application vient du fait que, d'une certaine façon, nous ne pouvons asseoir véritablement normativement les principes en dernier lieu.